Nous ouvrirons maintenant la parole de Dieu dans le texte qui a été choisi par Daniel pour introduire sa méditation ce matin et qui se trouve dans l'épître de Paul aux Romains. Épître aux Romains, au chapitre 5. Romains, chapitre 5. Et nous lirons à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et nous poursuivrons maintenant à partir du verset 18 de ce même chapitre. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole.
C'est un grand plaisir que j'ai ce matin d'être parmi vous. Le premier texte que Bernard a lu est un texte qui n'est pas facile à comprendre, même à admettre. Parce que par un seul, tous ont péché. Je n'ai rien demandé, je n'ai rien choisi. Alors comment peut-on expliquer cela? Parce que beaucoup se posent cette question. Alors pour comprendre, Paul se réfère bien sûr à la Genèse. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Il a dit à Jésus, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ce n'est pas n'importe quoi. Non seulement il est créé à son image, mais il les met dans un cocon, à savoir le jardin d'Éden. Quel privilège! Là, ils sont directement sous le regard de Dieu, sous la protection de Dieu. J'allais dire, ils sont élevés par Dieu lui-même. Formidable. Petit problème. Il y a un autre intervenant. Satan. Satan, lui, qui a un autre domaine. Parce que le premier pécheur, c'est bien lui. Il a contesté la loi de Dieu, il a contesté l'autorité de Dieu d'une telle manière qu'il a entraîné avec lui, excusez du peu, un tiers des anges. Et Satan, sous le couvert d'un serpent, va tenter, n'est-ce pas, Ève, ce qui nous est rapporté dans la Genèse, en lui disant, t'as bien tout compris? T'es sûr que tu peux pas manger tous les fruits, là? Ah, moi je peux manger tous les fruits, sauf un seul. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car si on en mange, on meurt. C'est pas vrai, tu ne vous mourrez pas. Et on pourrait imaginer que Satan lui a dit, moi j'ai péché, je ne suis pas mort, je suis là, je suis devant vous. Mais non, ce n'est pas ça du tout. Le problème, c'est que le jour où vous mangez de cela, vous allez avoir, prendre conscience du bien, du mal, et à partir de cela, vous êtes comme des dieux. Et ça, Dieu ne veut pas ça. Non, non. Et là, ils vont plonger, malheureusement. Et à partir de là, le privilège qu'ils avaient d'être dans cet Éden, sous la protection directe de Dieu, c'est terminé. Ils changent de camp. Parce qu'il faut bien savoir, il y a quand même deux camps. Il n'y en a pas trois, il y en a deux. Le camp avec Satan, on l'a dit, avec le tiers des anges, et l'autre avec Dieu, le Fils, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et les deux tiers des anges. En langage du XXIe siècle, on dirait qu'il n'y a pas photo. On sait quel est le camp le plus fort. Il suffit simplement de dire, eh bien voilà, je me mets sous le regard de Dieu et j'aurai plus de problème. Alors maintenant, allons un peu plus loin. Est-ce que le péché est héréditaire? On pourrait se poser la question. Alors je vais prendre comme exemple Caïn. Caïn qui, après avoir fait un sacrifice avec son frère Abel, n'a pas les faveurs, comme à Abel, de Dieu. Il est jaloux et ça devient le premier assassin sur la terre. Il va tuer son frère. À partir de là, on connaît la sentence et Caïn va partir loin de la face de l'Éternel. Caïn va avoir une grande descendance, dont un fils, Enoch. H-E-N-O-C-H, et non pas Enoch, fils de Seth. Et Enoch, dans Genèse 5, verset 21, il nous est dit, au bout de 365 ans, parce qu'il avait marché devant l'Éternel, Dieu le prit. Contre-exemple, Élie, non pas le grand prophète, mais Élie le sacrificateur, a deux fils. Ces deux fils, ce sont deux brigands. Donc avec ces deux exemples, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune hérédité et que l'homme et la femme ont toujours le choix devant Dieu. On a toujours le droit de choisir notre camp. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième texte, il est plus rassurant. Jésus s'est fait homme par Marie. Marie, une femme certes choisie, une femme d'exception je suppose, puisqu'il est dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais engendré par Dieu lui-même. Et là, Jésus vient sur la terre pour vivre notre vie. Il n'a pas péché. Comment se fait-il? Il n'a pas péché. Pas normal, ça. Eh bien, Jésus, on le sait, était en relation continuelle avec son Père. Nuit et jour. Maintenant, Satan va pas s'en priver de le tenter. Mais ne vous inquiétez pas, il connaît très bien Christ. Il va pas refaire le coup de la pomme. Il se trompe pas. Non, non. Ça, c'est, il sait ce qu'il faut faire. Il a un but précis. Il sait que Jésus va pas tomber par un péché comme nous on tombe. Certainement pas, il le sait. Son but est que Jésus reprenne sa divinité. Et si Jésus reprend sa divinité, il a gagné, c'est fini. Jésus a loupé sa mission. Donc il fera tout à chaque fois pour que Jésus reprenne sa divinité. Et on le voit dans toutes les tentations, jusque sur la croix, où un des larrons dit, mais attends, tu es fils de Dieu. Mais si tu es fils de Dieu, ben vas-y, tu nous le montres. Descends, sauve-toi. Puis en même temps, ben sauve-nous. Mais Jésus ne faillira pas. Jésus ira jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Je ne sais pas si on se rend bien compte. À partir de ce moment-là, Satan qui voulait sauver, paradoxal, Jésus, parce qu'il ne voulait pas qu'il passe par la mort, là, Satan sait que c'en est fini pour lui. Il sait qu'il va mourir. Il sait s'en est fini et qu'il lui reste peu de temps. Car nous aussi, nous le savons, il reste peu de temps et il se déchaîne sur chacun de nous. On n'a pas le temps, bien sûr, de parler de beaucoup de choses ce matin, mais Jésus, après sa résurrection, et on le sait, est resté 40 jours sur la terre. Pendant ces 40 jours, il a continué à visiter ses disciples. On se rappelle, Pierre et les autres sont en train de pêcher, ils n'ont rien pris. Jésus arrive, il leur dit, mes amis, jetez le filet à droite de votre barque. Et puis, À ce moment-là, Jésus a repris sa divinité. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Jésus n'a jamais utilisé sa divinité, sauf une petite fraction de seconde. Quand il est arrêté, « Qui es-tu ?» Que dit Jésus ?« Je suis. » Que font les soldats ? Ils reculent d'un mètre, ils tombent. Mais après, ils se laissent emporter. Mais là, maintenant, Jésus ressuscité, il a repris sa divinité. Il n'a pas besoin de frapper à une porte pour qu'on lui ouvre la porte. Il rentre. C'est une autre dimension. Les disciples sont contents de le voir et sont heureux. Ils ont un peu peur quand même. C'est un fantôme. Donnez à manger. Je vais manger avec vous. Thomas n'est pas là. Tu sais, on a vu le maître, il est venu nous voir. Oui, bon, enfin, vous êtes vraiment incrédule. Moi, je crois ce que je vois. Je veux mettre ma main dans son côté et mes doigts dans le trou de ses mains, sinon je ne crois pas. Moi, on ne me raconte pas. Hein. 8 jours après, Thomas est dans la chambre haute. Viens Thomas. Là, il n'est pas bien, Thomas, là. Hein. Il ne se sent pas bien. Il dit, Rabbi, maître, parce que tu as vu, tu as cru ? Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Et Jésus va multiplier ses apparitions. Il va dire aussi à ses disciples, mes amis, ne quittez pas Jérusalem. Restez à Jérusalem. Rappelez-vous, je vous ai dit quelque chose, je dois vous envoyer l'Esprit Saint. Attendez, restez. Que font les apôtres ? Ils sont réunis dans la chambre haute, ils prient tout le temps, unis entre eux, jusqu'au jour où Jésus leur envoie l'Esprit Saint. Et là, que dit Jésus à ses disciples ? Rappelez-vous, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne dit pas, mes amis, je suis venu sur la terre, j'ai fait des sacrifices, vous savez ce que j'aimerais ? Ben, j'aimerais que vous fassiez des choses pour moi. Non, il donne un ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Cet ordre, il nous le donne à nous. Cet ordre s'adresse aussi à nous. Ce n'est pas un vœu, c'est un ordre. Et ça, des fois, bien souvent, on n'en a pas conscience. Il dit aussi autre chose à ses disciples. Il dit, vous allez commencer par Jérusalem. Rappelez-vous, la Samarie, etc. Ça veut dire quoi ? Ben, commencez par Jérusalem, commencez par votre église. Commencez par votre famille. Commencez par vos amis, par votre entourage. On ne vous demande pas de prendre votre baluchon tout de suite, là, demain, d'aller au Guatemala, d'aller en Afrique du Sud. Non, ça sera pour plus tard, bien plus tard. C'est ici que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Allez d'abord à Jérusalem. Et c'est le message qui nous est donné. Nous devons être des militants. Militants, en fait, c'est quoi ? On va regarder. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, militant ? Alors voilà, le nom et l'adjectif militant et le participe présent du verbe militer. Être soldat d'origine guerrière, le terme est issu de la théologie. Tiens donc, puisque longtemps l'adjectif militant a qualifié l'Église qui combat ou lutte ou les membres de la milice du Christ. C'est intéressant ça. Nous sommes des militants. Mais ce matin, j'ai une proposition à vous faire. Ce n'est pas une proposition qui vient de moi, je ne suis qu'un petit porte-parole. Cela ne vient même pas de notre pasteur, c'est un vecteur lui aussi. Nous lançons, Michel en a parlé tout à l'heure, l'opération André. Ça va commencer en avril. L'opération André, rappelez-vous, c'est André rencontre le maître, il voit son frère Pierre, viens, viens, j'ai rencontré. Et puis il y a Nathanaël et Séra. Attends, arrête. Que peut-il sortir de bon de la ville de Nazareth? Viens et vois. C'est pas la peine, il n'y a pas de discours à faire. Viens et vois. Et nous, nous avons une seule chose à dire à notre entourage, à nos amis. Viens et vois. C'est la seule chose que nous avons à faire. C'est pas bien compliqué. Nous sommes à peu près ici, allez, 160, 170 en règle générale. Ça fait à peu près, on va dire, allez, 80 familles. Le but recherché, c'est que chaque famille amène au moins une personne. Et si les 80 foyers amènent une personne, ça fera 80 personnes, et j'espère que ce sera plus. Et pour ce faire, il faudra faire comme les disciples, prier. Nous n'avons pas de chambre haute, mais nous avons un temple, et nous devons recevoir l'Esprit Saint de manière à ce qu'il fasse ses effets en nous et tout autour de nous. Je crois qu'il est temps. J'ai reçu encore cette semaine Science et Avenir, et on nous rabâche les oreilles avec la fin du monde. J'entends Bernard qui rit, il l'a reçu aussi. Il y a au moins 8 ou 10 fins du monde différentes. Tout le monde parle de la fin du monde, sauf nous. Attends, il y a un problème là, parce que moi, j'étais haut comme ça, j'en entendais parler. Parce que Jésus revient bientôt, nous le savons. Et nous avons ce devoir de dire aux autres que Jésus revient, c'est clair. Et on aura le privilège, au mois d'avril, d'avoir une semaine de conférence qui sera faite par Karl sur, justement, l'opération André. Nous devons, mes amis, nous préparer pour cela. Car cela va nous préparer pour le retour du Christ. Prions donc les uns pour les autres pour qu'on reçoive ce Saint-Esprit et cette envie d'aller vers les autres. C'est ma prière pour ce matin. Amen.